RCF. RCF, l'entretien de la semaine.
Fusillé avec ses compagnons au Mont Valérien à Suresnes le 21 février 1944, Missak Manouchian entre 80 ans plus tard, jour pour jour, au Panthéon. Il y entre accompagné de son épouse Mélinée. Pour découvrir la vie et l'engagement de ce résistant d'origine arménienne, les possibilités sont nombreuses en ce moment. Une exposition au mémorial de la Shoah, un film sur France Télévisions, Manouchian et ceux de l'affiche rouge, un livre aux éditions textuelles et une bande dessinée aux éditions des Arènes intitulée Missak Manouchian, une vie héroïque. Denis Péchanski, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, directeur de recherche émérite au CNRS et spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et de la Résistance. Vous êtes conseiller scientifique et intervenant dans tous les ouvrages, films, expositions que je viens de nommer. Alors merci d'être avec nous pour nous aider à mieux connaître Missak Manouchian et aussi comprendre la portée de ce geste, de le faire entrer au Panthéon. Alors d'abord, Missak Manouchian, c'est un enfant du génocide arménien.
C'est un orphelin du génocide arménien, donc des Turcs qui ont massacré les Arméniens en 1915. Pour donner une idée, on pense qu'il y a entre 1 200 000 et 1 500 000 morts sur les 2 millions d'Arméniens qui vivaient alors dans l'Empire ottoman. Et il a réussi à s'échapper, sauf que son père est mort, les armes à la main, et c'est certainement pas sans conséquence sur son engagement pendant la guerre. Sa mère est morte de privation, d'épuisement. Et il va se retrouver dans un orphelinat, mais qui, comme c'est après la Première Guerre mondiale, l'écroulement de l'Empire ottoman, il est sous mandat français. Et il va découvrir, et c'est fondamental pour comprendre son identité arménienne, chrétien, parce que on découvre et on a découvert récemment que avant d'être fusillé, il a demandé à communier auprès du père Franz Stock, bon, l'aumônier allemand, et aussi, il développe un amour pour la littérature française.
Alors c'est intéressant parce qu'il arrive en France, il rêve d'être poète.
Oui.
Et il est ouvrier chez Citroën.
Son frère.
Livreur de charbon,
oui,
il fait plein de...
Oui, son frère lui dit, Garabed, ils vont ensemble, lui dit, bon, c'est bien d'apprendre la poésie, mais enfin, on va aussi apprendre quand même la menuiserie, si tu veux bien, parce qu'on en aura besoin. Il vient en France dans les années où on a besoin de main-d'œuvre pour reconstruire après la Première Guerre mondiale.
Il arrive en 1924.
Et voilà, 24, il est réfugié, et protégé. Il a un statut protégé comme rescapé du génocide. Et puis, il va faire des petits boulots. Et se rajoute à cette complexité identitaire, en quelque sorte, un engagement politique. On découvre aussi, à l'occasion de travail sur les archives, que Missak Manouchian rentre dans la mouvance communiste bien avant 34, comme on le pensait, c'est début des années 30. Donc, communiste et internationaliste, qui s'ajoute à toutes les autres composantes de son identité. Il va jouer un rôle très important dans l'émigration arménienne en France. Il va l'organiser, s'occuper du journal. Il va rencontrer sa femme, Mélinée, c'est un couple fusionnel. Et puis, on découvre qu'il a demandé deux fois la nationalité française.
Et ça lui
en
a été
33
refusé
et 40. Mmh. Oui, parce que il a demandé trop tard. Il demande en 33, c'est la crise économique. J'ai retrouvé les papiers. Par hasard, j'ai quand même 40 ans que je travaille sur ces sujets-là. Mmh. Et j'avais pas vu ça. Personne savait qu'il avait demandé deux fois la naturalisation. Et je m'aperçois que même le préfet de police était plutôt pour en 33. Sauf qu'après, il y a un plumitif administratif qui a dit, bon, bah, attention, parce qu'il n'a pas de métier stable, il n'y a pas de revenus.
Et puis l'économie.
On est en pleine crise. Même pas. Oui. À ce moment-là, ils ne savent même pas. Et lui-même, d'ailleurs, c'est pas tout à fait ça où il commence, mais c'est surtout pour des raisons économiques. Et donc, on reporte. Et lui, il disait, je veux devenir français pour combattre dans l'armée française, et il va le recommencer en 40. Et donc, dans l'atmosphère du Front populaire, évidemment, c'est l'antifascisme, l'antinazisme, il est bien, bien entendu. Et lui, quand il va s'engager dans la résistance, quand il va devenir chef des francs-tireurs et partisans de la main-d'œuvre immigrée, donc qui mène la lutte armée à Paris en 43, quand il va prendre la suite, d'ailleurs, d'un juif roumain, Boris Solban, eh bien... Il a cette combinaison identitaire, mais qui fusionne en quelque sorte dans l'amour pour la France, mais pas la France de Vichy, pas la France de Pétain, la France des droits de l'homme, la France de la Révolution française, la France des Lumières. Et ça, c'est valable pour lui, et c'est valable pour tous ses camarades. Il n'y a aucun problème pour les Italiens, les Juifs, qui sont les deux composantes essentielles, les Juifs d'Europe centrale et les Italiens de ces combattants étrangers à Paris, et puis les Espagnols, donc les Arméniens, ils travaillent ensemble. Ils militent ensemble, ils jouent leur vie ensemble, et ça ne pose aucun problème parce que aussi ils partagent cet amour de la Révolution française et de la France.
RCF, l'entretien de la semaine.
Denis Péchanski, à quel moment précisément Missak Manouchian entre en résistance ?
Alors, il rentre en résistance en 1941. On sait bien que les communistes ont été... sonner vraiment les militants, c'était n'ont pas compris la signature du pacte germano-soviétique en 39. Le pacte est rompu en 41. Bon, déjà il était après des travaux à droite et à gauche pour gagner sa vie. Il revient sur Paris et dès le printemps 41, il s'engage dans cette résistance et surtout à partir de l'automne, il va diriger le groupe de langue arménien de la main-d'œuvre immigrée, c'est-à-dire une structure mise en place par le PC français depuis l'après-première guerre mondiale pour encadrer les différents groupes de langues, les différentes nationalités qui arrivent. Et donc, il y a des groupes de toutes nationalités dont lui, il a d'abord une responsabilité politique, c'est une résistance politique. Les journaux clandestins, les tracts, le sauvetage aussi, ils peuvent aussi rechercher des armes. Enfin, ils jouent leur peau. Hein.
Des résistants qui sont tous d'origine étrangère, d'où l'attitude de Vichy de les montrer du doigt pour dire ce sont des résistants, mais regardez, enfin ce sont des terroristes, tous étrangers.
Mais ça sera le cœur de la campagne qui va être menée, là, organisée par les Allemands après les arrestations, autour de l'affiche rouge. Relayé par une officine collaborationniste française, mais c'était de montrer que la résistance, en fait, c'était le fait des juifs, des communistes, des étrangers.
Mais pas des bons français, quoi.
Voilà, c'était l'armée du crime.
Alors pourquoi l'affiche rouge ? Parce qu'on associe toujours Manouchian et l'affiche rouge. En quelques mots, qu'est-ce que c'est l'affiche rouge ?
Tout simplement parce que après une traque qui a duré, mais pour ce groupe-là, un an, c'est-à-dire qu'on comprend rien à l'arrestation des dizaines de francs-tireurs partisans, comme lui, comme Reimann, comme Alfonso et autres. En novembre 43, si on ne sait pas que pendant un an, depuis janvier 43, la filature est engagée par la police parisienne, au nom de la collaboration, c'est Vichy, et c'est la responsabilité de Vichy, d'avoir dit « oui ». On collabore avec les Allemands, et évidemment, ils sont beaucoup plus efficaces que les Allemands.
On dit qu'on a mis 200 policiers, inspecteurs pour essayer de les arrêter.
C'est des inspecteurs professionnels face à des gens, pour une part, qui ont l'expérience de la clandestinité des années 30 en Europe centrale, ou bien qui ont participé au combat de la guerre d'Espagne, mais c'est aussi des gosses. Il y a Reimann, enfin, c'est des jeunes, quoi. Il y a Della Negra. Ils vont se retrouver ensemble, ils vont être arrêtés et ils vont être fusillés le 21 février. Et en accompagnant, là, après une opération menée par les Français, ils sont livrés aux Allemands, quand tout est bien clair, et les Allemands organisent une campagne de propagande autour de la thématique « c'est l'armée du crime, c'est ça la résistance ».
Il y a une affiche rouge. C'est le procès des étrangers, encore une fois.
Et oui, et là, il y a une affiche rouge où on se retrouve avec des visages d'étrangers, bien sûr, grande majorité de juifs, mais aussi l'espagnol Celestino Afonso, enfin bon, et... avec l'objectif de montrer que c'était des terroristes. Mmh. Et ça nous intéresse pour aujourd'hui quand même la différence entre terrorisme et résistance.
Justement, hein. Denis Péchanski, Que représente cette entrée au Panthéon de Missak Manouchian, selon vous, dans le contexte de la France actuelle?
Alors, je suis du comité pour la panthéonisation qui s'est battu sous la direction de l'unité laïque, là, avec Jean-Pierre Sakoun. On s'est battu pour la panthéonisation, mais dans une perspective universaliste. Et c'est exactement dans cette perspective que s'inscrit cette panthéonisation qu'a voulu le président et qu'il l'a annoncé
C'est-à-dire,
en 18 juin.
Vous pouvez préciser ce que vous voulez dire.
Ça veut dire que quand, en 18 juin 2023, il l'annonce, il dit « Manouchian rentre au Panthéon, c'est le premier résistant étranger, le premier résistant communiste à rentrer au Panthéon. » D'ailleurs, mon problème, c'est pas de savoir pourquoi ils rentrent au Panthéon, c'est pourquoi ils sont pas rentrés avant. Bon. Ensuite, avec lui, accompagné de sa femme, parce qu'il y a un couple fusionnel, comme Simone Veil était accompagné d'Antoine, avec eux, eh bien, on a les 23, tous, dont Missak, qui rentrent, plus le chef.
Vous voulez dire que symboliquement, les 23 entrent au Panthéon.
Mais plus que symboliquement.
Parce qu'ils ne rentrent pas, les autres.
Mais si. Alors évidemment, on va pas faire rentrer 23 cercueils au Panthéon. La panthéonisation, il y a une symbolique derrière. Et puis, c'était le chef. Bon, mais ils rentrent tous les condamnés à mort exécutés, dont une femme qui sera exécutée en Allemagne, Golda Bancik. Ils rentrent tous. Ils seront honorés par des lettres d'or à côté du caveau. On aura sur le mur les noms de ces combattants qui ont été fusillés après le procès de la Fiche Rouge. Donc, ils sont au Panthéon. Et au-delà, symboliquement, c'est l'entrée de tous les étrangers résistants au Panthéon.
Dans la dernière lettre à son épouse, Missak Manouchian écrit « Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement ». Il l'a écrit il y a 80 ans, c'est enfin réalisé. Merci beaucoup de nous avoir présenté ainsi Missak Manouchian et l'enjeu de cette panthéonisation. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Thank you.